Bonjour à toutes et tous. Alors, un podcast un petit peu spécial, fait comme ça au débeauté. Alors, même si ça fait plus d'une semaine que j'y réfléchis. Voilà, un podcast dédié surtout aux tipeurs, aux contributeurs de l'émission et encore plus particulièrement à Mopral, Noka, Lina Nounette, Machin Truc 76, Yvan Le Pierrot, Garan, Biber Jack, Siwidi Ju, hein, comme on l'appelle dans le milieu, HXC et Pipo. Merci, merci à vous puisque vous m'avez offert déjà tant et tant et tant de cadeaux, une carte avec des mots voilà, qui me font chialer à chaque fois tellement c'est plein d'amour et je les relis souvent, parce que ça me donne la patate vraiment pour réaliser l'émission. Un tableau magnifique Nier Automata, des gâteaux, plein de choses, et cette Mega Drive Mini que vous m'avez commandée, vraiment jumelée en plus à une année supplémentaire de Premium Game Cult. Bref, je suis trop gâté, vraiment, vous êtes merveilleux, je vous aime, et je me suis creusé le citron pour savoir comment vous remercier. Alors, ce sera jamais à la hauteur vraiment de tout cet amour et ces cadeaux que vous m'avez offert, mais je voulais trouver un moyen en fait de vous remercier, et je me suis dit que le meilleur moyen ce serait peut-être un podcast un petit peu particulier avec là, donc j'ai la Mega Drive Mini qui est branchée, elle est en face de moi. Alors, j'ai déjà fait mes petites configurations. Petite parenthèse, c'est vrai que le filtre CRT hein, pour simuler une télé cathodique est un peu violent, c'est vrai, ça altère un peu les couleurs. Et j'ai découvert, alors après tant d'années, hein, puisque ça doit faire 6-7 ans que je l'ai, mon écran HD, avec l'option netteté, j'ai pu, donc en baissant l'option netteté, j'ai pu appliquer un petit filtre très léger, qui adoucit le pixel sans altérer les couleurs. Donc j'ai un rendu absolument fantastique. Quasiment comme ma Mega Drive d'origine sur mon écran cathodique, mais avec une netteté qui n'existait pas sur télé cathodique, mais avec le pixel qui garde un peu son rendu comme voulu à l'époque. Et les couleurs chatoyantes, enfin, je suis très content de ça, vraiment, j'ai fait des bons. Je suis très content de ça, ça c'était la petite parenthèse. Le but c'est pas de partir dans un ego trip, alors je vous fais un podcast sur moi, je vous parle de la Mega Drive, mais surtout pour vous expliquer à quel point la Mega Drive est une console qui a énormément compté dans ma vie. Vous le savez, j'aime pas les guerres de clochers. À l'époque, je n'étais ni Team Mega Drive, ni Team Super Nintendo. C'est deux consoles que j'aime autant, qui ont autant compté l'une que l'autre, voilà, pour diverses raisons. Et donc, j'avais envie de vous faire un petit peu un hors-série. Donc, on s'éloigne des thématiques de la revue de presse JV. Le prochain épisode, d'ailleurs, enfin... Et donc, l'édition de lundi qui arrive, hein, là on enregistre samedi après-midi, j'enregistre ça aussi ce week-end. Je me suis rajouté ce podcast en plus, voyez-vous, mais c'était la moindre des choses vraiment que je pouvais faire pour vous. Et surtout, vous parlez de mes premières fois sur Mega Drive. C'est pas un ego trip du tout, mais justement pour vous montrer à quel point votre cadeau me va droit au cœur. Vous le savez, le jeu vidéo, quand on est passionné, le jeu vidéo partage nos vies, a partagé nos moments de bonheur, parfois nos moments de tristesse aussi. C'est vraiment lié, ça s'entremêle vraiment à notre existence et ça a été des marqueurs comme ça, où ça nous a apporté du bonheur, ça a accompagné des moments de bonheur aussi. C'est très important. Et donc j'avais envie de vous parler de tout ça et ce qu'on va faire. Alors attendez, je rappuie sur Start. Je vais augmenter un petit peu le son. Voilà, musique du menu fait par Yuzo Koshiro. Exceptionnel. Et on reconnaît en plus des échantillons utilisés tantôt dans Sonic, dont Yuzo Koshiro n'a pas fait la musique, hein, mais sauf la version Master System. Plein d'échantillons de jeux Mega Drive. Et donc composé par Yuzo Koshiro avec les sons de l'époque. C'est vraiment génial. Donc là, je me suis mis sur la Mega Drive Mini. Elle est devant moi, vous devez l'entendre en fond, elle est sur la télé. Hein. Elle est en bruit de fond. Et j'avais envie, en fait, de vous parler donc de mes premières fois sur Mega Drive pour vous montrer à quel point cette console a compté et ses jeux ont compté. Là, j'ai la liste donc des jeux par date de sortie. Vous pouvez classer les jeux donc par date de sortie, par titre, etc. Alors, je ne vais pas vous faire toute la liste de jeux, puisque ça va faire 3 heures et puis ça va peut-être vous gonfler au bout d'un moment. Mais sur chaque jeu vraiment les plus marquants de cette sélection, essayez de les lancer, de parler en même temps. Alors, comme je dis souvent, n'est pas Marcus qui veut et je joue très mal quand je parle en même temps. Donc, dans la mesure du possible, je vais essayer de m'exprimer clairement en jouant et de jouer pas trop mal en parlant. Quelques jeux de cette sélection, vraiment vous dire pourquoi ils m'ont marqué et pourquoi la Mega Drive m'a marqué à ce point-là. J'aimerais commencer avec une toute première anecdote, en fait, c'est comment j'ai découvert la Mega Drive. Alors, il faut savoir que moi, mes premiers émois avec le jeu vidéo, ça a été le Game & Watch. Alors, Game & Watch, on peut pas forcément parler de jeu vidéo à proprement parler, hein, et du jeu électronique, si vous voulez. Ça a été mon premier contact avec ce qui peut s'apparenter à du jeu vidéo tel qu'on le définit aujourd'hui. J'ai eu après une vidéo pack, etc. Et après, il y a une petite pause, voilà. Le coup de foudre est vraiment arrivé en voyant chez un de mes voisins de l'époque, hein, j'habitais à Aubervilliers, dans le 9-3. Coucou, hein, si certains habitent dans le 9-3, je vous salue. Ça a été le choc, ça a été de voir un voisin de l'époque, Jean-William, qui jouait sur... J'allais le voir, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. Donc là, j'étais... quel âge j'avais à ce moment-là ? Je le vois jouer sur IK+, hein, International Karaté Plus, sur son Atari ST. Là, c'est le coup de foudre définitif. Là, je me dis, voilà, je veux un Atari ST, je veux un Atari ST. Bon, je vous la fais courte. Mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens. Vraiment, on roulait pas sur l'or à la maison. Mais j'ai eu la chance d'avoir une enfance tout à fait heureuse. Et mes parents se saignaient pour nous faire plaisir, moi et mon frère. Donc, ils ont réussi à acheter d'occasion un Atari ST. Je suis passé, pardon, après à l'Amiga. Et donc, j'étais très micro dans la période 16 bits. En tout cas, j'étais très micro. Et la Mega Drive est arrivée. La Mega Drive est arrivée et je l'ai... Comment j'ai découvert cette console ? Alors, c'est assez marrant, puisque à ce moment-là, je jouais donc chez moi à la version Amiga de Toki. Toki qui est ressorti en remake il y a pas longtemps. Je salue au passage Philippe Dessoli qui est non content d'être un artiste vraiment hyper talentueux, est un gars vraiment super sympa. Donc, je le salue. Voilà, pour l'occasion. Donc... Toki sort sur Amiga, Océan, Philippe Dessoli s'occupe des graphismes, etc. Vraiment, on n'est pas loin de l'arcade perfect, pardon. C'est magnifique, et la BO est même encore mieux que sur la borne d'arcade originale, puisqu'on a des morceaux inédits, j'ai oublié le nom du compositeur, et je m'en excuse, mais des thèmes vraiment magnifiques. Bref. Ça défonce, quoi. Sur Amiga, Toki, ça défonce. Et donc, j'avais mon copain d'époque que je salue, et qui est toujours mon ami, que j'ai retrouvé grâce à un ancien podcast que je faisais, Brocast. Bref, là, je m'étends, je tisse une toile, je pars dans tous les sens. Je suis désolé, hein, c'est pas préparé du tout. Vous m'en excuserez. Donc, lui avait un Amiga aussi, etc. Et donc, on était au lycée ensemble. À ce moment-là, je devais être lycéen, oui. Je devais être lycéen. Mais oui, je suis vieux. Je suis très vieux. J'ai eu 43 ans au mois de juin dernier. Et j'ai la disquette de Toki, donc chez moi et tout. J'y joue. Je dis, putain, faut que je monte ça à Mickaël. Je vais lui foutre une baffe atomique. Je l'appelle et tout. Je fais, j'ai Toki sur Amiga, mon gars. Tu vas te prendre une claque et tout. Et j'avais hâte de lui montrer pour qu'il se prenne la claque aussi. Et puis dire, voilà, être fier de montrer ça. Je l'avais eu avant lui. Donc j'habitais en cité à Aubervilliers à l'époque. Je descends de ma tour. Lui, il était à quelques tours plus loin. Je vais le rejoindre chez lui, tout fier avec ma disquette Amiga, en me disant, je vais lui en envoyer plein la gueule et tout, ça va être top. Excusez-moi, je bois un petit peu de café. Ah oui, on est loin vraiment de l'esprit très, très cadré de la revue de presse JV aujourd'hui. Hein. Ça fait presque vlog mon truc. Je suis désolé, sauf que c'est en audio. Et donc, j'arrive chez lui et tout. Je sonne à sa porte, il m'ouvre et il me dit attends, il me dit 2 minutes, je finis une partie sur Mega Drive, parce qu'il a vu la Mega Drive, il me semble qu'il l'a vu en import même, hein. Il me semble que c'était même avant sa sortie européenne, et là la démo d'Altered Beast se lance, bref, et je fais oui, il n'y a pas de souci. Et là, alors l'Amiga était dans sa chambre, la Mega Drive était branchée dans la télé du salon. Je rentre dans le salon avec lui, faut que je finis une partie, je joue à Mickey Castle of Illusion. Alors, Mickey Castle of Illusion, il me semble à l'époque avoir vu quelques images dans Console Plus. Mais là, je vois Castle of Illusion. Et je me prends une claquette dans le museau, mais intergalactique. Et je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Qu'est-ce que cette féerie ? En plus, il était, je crois, à ce moment-là, dans le niveau de la bibliothèque, hein, pour ceux qui l'ont fait. Donc on plonge dans une tasse de thé, on nage au milieu des sucres, on remonte et tout. Et c'est un jeu, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, j'essaierai de ne pas être trop gonflant et trop long, mais pour moi, je crois que c'est le premier jeu où je me suis dit, là on a de la poésie vraiment, en fait, pixel, c'est onirique, c'est poétique, c'est splendide, je trouvais ça même plus beau qu'un Disney tout court, enfin vraiment, le coup de foudre quoi. Et il joue, Il a un game over au bout d'un moment. Et après, on va dans sa chambre. Donc, il me dit, bah alors, vas-y, ok, montre-moi Toki. Et sans manquer de respect à tous ceux qui ont bossé sur Toki, je me trouvais con parce que ce que je venais de voir, mais explosait Toki complètement. Et j'avais qu'une envie, c'était de jouer à Castle of Illusion. Et mon Toki, dont j'étais si fier, qui pour moi allait tout défoncer quand j'allais lui montrer, et ben me paraissait vraiment petit et vraiment bien en deçà de Castle of Illusion. Donc ça, c'était mon premier contact avec la Mega Drive. S'en est suivi en fait une demande auprès de mes parents en voulant de Mega Drive. Et là, je crois qu'il fallait attendre la sortie, il me semble. Alors après, c'est un petit peu flou, hein, les souvenirs. Mais le moment où j'aurai la Mega Drive, je vais y revenir. Et je vois que là, on a dépassé les 10 minutes. Mon Dieu, voilà, j'espère que ça sera pas trop redondant. Bon, alors là, je suis sur le menu de la Mega Drive Mini. Je vais augmenter un peu le son. J'espère que ça sera pas trop assourdissant. Je pense qu'à 16, on est pas mal. J'espère que vous l'entendrez un petit peu. J'ai fait des tests avant, normalement oui. Hein. Donc là, je suis dans le menu des jaquettes européennes, hein, voilà, occidentales. Sachant qu'en mettant la langue de la Mega Drive Mini en japonais, on a les jaquettes absolument fantastiques, voilà, japonaises. Donc bon. Alors là, on a Alex Kidd in the Enchanted Castle, et c'était pas le meilleur des Alex Kidd, même si je garde une affection pour lui, surtout j'ai découvert les premières images du jeu dans une émission de jeux vidéo que j'adorais qui s'appelait Gros Plan sur la souris. Ça m'avait assez marqué. Après, on a Altered Beast, alors c'est vrai qu'il était une adaptation comme assez balèze de l'arcade, même si c'est un jeu voilà, dont on aime bien se moquer parfois, etc. C'est comme un jeu qui a compté. Space Harrier 2, Thunder Force 3, le shoot de Technosoft, bah, je l'avais découvert chez mon pote Mickaël. De toute façon, tous les jeux, là, je les ai découverts quasiment tous avant chez lui, parce qu'il avait les jeux en avance, ses parents lui achetaient. Et moi, je découvrais ça chez lui. Donc, Technosoft, Thunder Force 3, que je ne présente plus. Je me rappelle la première fois qu'il l'a fait tourner chez lui. Moi, c'est la musique des menus des planètes. Alors, je vais vous la mettre. Hop. On choisit son niveau au début. Au-delà après de toute la claque qu'elle joue derrière, hein. Mais le premier souvenir que j'ai, c'est ça, la musique des menus de Thunder Force. Alors je vais augmenter un peu le son. Je sais pas ce que va donner le mixage sonore après, hein. Vraiment là, c'est une séquence émotion, hein, complètement. Voilà, je vais augmenter. Voilà, cette musique, qui est le Stage Select. Bon bah, ça m'a tué à l'époque. Voilà, ça m'a tué. Je trouvais ça absolument fantastique, donc je vais rebaisser. Je vais rebaisser le son, voilà. Je vais même pas me mettre à jouer à Thunder Force 3 maintenant, parce que déjà au shoot, je suis pas très fort, alors c'est pas le plus dur. Hein. Donc voilà, donc pour revenir sur le menu principal de la Mega Drive Mini, on laisse longtemps appuyer sur Start. Retour menu principal. Voilà, donc je vais arriver au premier jeu vraiment du cœur, Castle of Illusion. Je lance tout de suite. Alors, Castle of Illusion, c'est le choc chez Mickaël, dont je vous parlais, j'étais lycéen. Grosse claque. Et donc, c'est un jeu. Alors, c'est pas le premier que j'ai eu sur Mega Drive. Quand mes parents, après, ont pu m'acheter la Mega Drive, on y reviendra, c'était avec Street of Rage. Il y a eu la claque Sonic entre temps, moi j'y reviendrai. Castle of Illusion, c'est un jeu vraiment très cher à mon cœur et il fait partie de ces jeux déjà, comme beaucoup de jeux dont on va parler aujourd'hui. Les jeux Mega Drive qui m'ont marqué font partie de ces jeux où il n'y a pas que la nostalgie qui joue, c'est-à-dire que j'y rejoue depuis tout le temps, depuis toutes ces dernières années, j'ai toujours rejoué régulièrement, que ce soit sur la Mega Drive que j'avais, que j'ai filé à MO5 après, ou sur émulateur, etc. C'est des jeux qui, au niveau game design et gameplay, n'ont pas vieilli pour moi, ou alors si peu pour certains. Donc il n'y a pas que la nostalgie, il y a toujours un plaisir de jeu qui est là. Il y a certains jeux qui m'ont beaucoup marqué à l'époque et qui pour moi maintenant sont injouables, et ça je le reconnais toujours aisément. Mais là, ces jeux Mega Drive avaient déjà l'air 16 bits quand même. Au Japon, il y avait une modernité voilà, qui n'a vraiment pas mal vieilli du tout. Bref, donc Castle of Illusion, parce qu'à l'époque je disais bien sûr Castle of Illusion. Castle of Illusion, donc il y a eu la claque chez Mickaël, et c'est un jeu aussi où j'avais déjà ma Mega Drive, donc mes parents ne pouvaient pas m'acheter des jeux tous les mois. Hein, et il y a une période où vraiment j'étais pas bien et je voulais plus aller au lycée, et voilà, c'était vraiment les premières années lycée. Voilà, j'étais pas dans mon assiette, j'étais pas bien dans mes baskets, etc. Et je sais que mon père m'a amené dans un magasin, enfin ça a été décidé à la maison avant, et en fait on m'avait dit on parlait de Castle of Illusion qui était revenu. Et mes parents m'ont dit, bon, ça te ferait du baume au cœur si on te le prenait, etc. Bah, j'ai dit, bah oui, oui, c'est sûr. Ça règle pas tous les problèmes, mais enfin voilà, sur le moment, ça met beaucoup de baume au cœur. Et je sais que mon père en voiture m'avait amené dans un magasin dont je me souviens plus. C'était pas spécialisé jeux vidéo, ça je m'en rappelle, ça faisait un peu de tout. Et donc là, c'est très flou le magasin, mais il m'avait pris Castle of Illusion en me disant, bon, ça va te remonter le moral, ça va. Oui, papa, ça va me faire du bien, etc. Et on était revenu à la maison et j'avais pu rejouer donc X temps après la claque chez mon pote à Castle of Illusion. C'était vraiment une. Là, je lance le jeu. Castle of Illusion, ça a été historiquement un des premiers chocs aussi de la Mega Drive. Ça fait partie de cette première vague de jeux Mega Drive qui a vraiment marqué. Je sais que dans la presse, et pour raccorder un peu avec la revue de presse JV, alors je sais pas si vous entendez bien le son, mais voilà, hop. J'ai donné des coups de fesses. Voilà, ce jeu est absolument fantastique. Avant que Sonic arrive, c'était vraiment la star des jeux de plateforme hein, sur Mega Drive. Je sais que les screens sur console plus ou les suppléments console de joystick, parce qu'à l'époque Joypad n'existait pas encore, à part entière en tout cas, c'était la claque déjà visuelle dans les magazines, mais c'est vrai que voilà, le voir tourner. C'est la première pierre hein, de la sainte trilogie Sega Japan Disney. La deuxième pierre, c'est Quackshot, donc qui n'est pas voilà, dans cette Mega Drive Mini. Et la troisième pierre, c'est World of Illusion, qui est dans cette Mega Drive Mini, pardon. Et ça, c'est, j'ai envie de vous dire, c'est le bonheur et c'était la grosse surprise. C'est ces jeux licenciés Disney qu'on ne pensait pas revoir sur une mini, parce qu'on sait que c'est très compliqué. Et ça, c'était la grande surprise, et pour moi, ça a été un des facteurs hein, très importants qui m'ont fait baver devant cette Mega Drive Mini, au-delà de l'amour que je portais voilà, pour la Mega Drive. Donc, on va changer de jeu, hop. Là, voilà, je pourrais faire mon run hein, complet, mais je vais le faire, ça c'est clair. Hop. Donc, il y a des scènes cultes hein, dans ce Mickey. Il y a eu un remake PC, PS3, 360, donc, qui était sorti à l'époque, qui est très très bien. Alors. Bien évidemment pour moi qui ne renoue pas avec toute la magie du jeu original, mais qui était vraiment très très bon, vraiment très très bon, un bon exemple de bon remake. Donc je retourne dans le menu principal, Bride Street of Rage, hein, excellent. Alors Strider, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Je suis obligé de faire une sélection parce que sinon je vais vous parler 3 heures de chaque jeu. On va aller sur Sonic. Alors Sonic 1, qui est Sega, pour moi le meilleur épisode avec maintenant Sonic Mania. J'attends d'ailleurs comme un fou, comme un soldat, Sonic Mania 2. J'espère qu'ils sortiront un jour. Alors je vais baisser un petit peu, je ne sais pas trop selon les jeux voilà, comment le son va être sur le podcast. La musique, alors voilà, là on a Green Hill Zone, et Green Hill Zone ça résume tout à fait. Mon premier contact avec Sonic. Encore une fois, merci Mickaël, c'est chez toi. T'as vu Sonic en japonais. Je te dédie aussi ce podcast, parce que vraiment, c'est grâce à toi à l'époque que j'ai découvert tous ces jeux. Et tu as fortement contribué, comme je l'avais dit dans ce broadcast jadis, vraiment à ma passion du jeu vidéo. Et donc j'arrive chez toi encore, et là tu as la dernière nouveauté, et tu as Sonic. Je bois un petit coup de kawa. Et je vais baisser encore un peu, je sais pas. J'aimerais bien qu'on ait la musique de Sonic en fond, voilà, alors que ça lance les. À Marble Zone. Et donc tu as Sonic, et là je vois Green Hill Zone. La musique, déjà, me va droit au cœur. Je tombe amoureux du thème Green Hill Zone, qui reste mon thème préféré de Sonic. C'est un thème qui peut me faire pleurer, vraiment, tellement je l'aime. Et le visuel de la Green Hill Zone. Cette façon de vouloir singer. Comment on se représentait l'image de synthèse à l'époque, les images informatiques, ces damiers, ces feuilles de palmiers très, très anguleuses. Cette alchimie, cette direction artistique d'une manière plus générale m'a frappé au plein cœur. Ça a été le coup de foudre absolu. Et le jeu ensuite, bon, voilà. Je ne vais pas revenir là-dessus, sinon je vais parler encore trois plombes, mais voilà, Sonic, ça a été un choc pour plein de niveaux. Et ben c'est ça qui m'a fait vraiment dire, parce que je faisais de la résistance avec mon Amiga, voilà, oui, la Mega Drive c'est génial, mais quand même l'Amiga, machin. Et j'ai rebasculé donc à ce moment-là vraiment dans le monde des consoles. J'ai pas suivi le parcours qu'ont fait beaucoup d'amigaïstes d'aller vers le PC. Je voulais absolument la Mega Drive, voilà. Donc, et Sonic m'a vraiment conforté du... Alors à l'époque, il n'était pas sorti en version européenne, mais je voulais une Mega Drive. Et donc, on va revenir au menu. Et donc, le Noël qui a suivi ce choc, hein, j'ai plus trop les dates en tête, hein, voilà, mais mes parents se débrouillent et vraiment, ma mère n'est plus de ce monde, mais j'ai la chance d'avoir encore mon père, mais vraiment, je ne les remercierai jamais assez pour cette vraiment saignée pour nous comme ça. Et du coup, le Noël qui a suivi, Mega Drive. Mega Drive ne sera pas avec Sonic, parce que je voulais absolument Sonic, mais Sonic était en rupture de stock, donc dans sa version européenne, hein, était en rupture de stock, et donc il y avait Street of Rage. Voilà, Street of Rage, et la joie est qu'il n'y a pas Street of Rage 1 dans la compile, je pensais qu'il y était, je ne le vois pas, enfin dans la compile, dans la console, il n'y est pas. Bon, parce que là au niveau des dates, j'aurais dû avoir Street of Rage, il n'y était pas, bon. Et donc j'ai Street of Rage avec. Et Street of Rage, c'est malgré le fait que ça copie-colle énormément de choses de Final Fight, hein, vraiment, hein, c'est, que ce soit les ennemis, les thématiques de certains niveaux, prenez le dernier niveau, hein, c'est un flip, hop, du dernier niveau de Final Fight, mais avec cette ambiance très Sega, néon, la nuit, Sega a drapé ça de, vraiment d'une ambiance, c'était à Team Shinobi, hein, si je ne fais erreur, d'une ambiance vraiment... à part qu'on n'avait pas vu, et voilà, les coups, etc., la classe, voilà, le charisme absolu, les musiques de Yuzo Koshiro, donc tout ça fait que Street of Rage a Bark Knuckles, hein, en VO, a son ambiance à lui, et je tombe amoureux, voilà, aussi, de... alors j'avais pas Sonic avec la Mega Drive, mais donc j'ai eu Street of Rage, et je suis de... tombé complètement fou, et j'ai une anecdote, je l'ai déjà sorti, mais c'est vrai, c'est vraiment le jeu qui a le plus compté de... le jeu Mega Drive qui a le plus compté dans ma vie, puisque alors que bien des années après, mon épouse Natacha était, quand elle était enceinte, et qu'on se battait, enfin qu'on débattait pour le nom, pour le prénom, on n'arrivait pas à se mettre d'accord, et elle aimait beaucoup Street of Rage, pardon. Elle aussi, on se faisait beaucoup de runs de Street of Rage tous les deux. Voilà aussi, on s'en refait régulièrement. Et donc, on n'était pas d'accord, vraiment sur les prénoms, on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Vraiment, on s'est débat. Et un soir, on rejoint à Street of Rage, Axel, c'est tombé vraiment comme une évidence, et c'est le personnage d'Axel, donc le héros masculin de Street of Rage, qui nous a donc inspiré pour nommer notre fils, voilà, Axel. Et donc c'est grâce à Street of Rage que mon fils s'appelle ainsi. Voilà, donc là il y a Street of Rage 2 dans la liste, donc bah pareil, grosse claque, même si j'arrive pas à vraiment à les départager, le 1 et le 2, je les aime vraiment autant. Je sais que beaucoup disent que le 2, mais j'adore le 1 aussi, vraiment, et j'arrive pas à les départager, malgré les améliorations de gameplay et de LD qu'on trouve dans le 2. Wonder Boy in Monster World, donc qui est le Monster World avec Chion, hein, et ses beaux cheveux bleus, voilà, c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué aussi, j'aime beaucoup les Monster World, c'est une de mes séries fétiches, voilà. Tout simplement, World of Illusion, allez, on lance le World of Illusion, qui est donc la suite de Castle of Illusion, et bah, que j'aime quasiment autant, hein, même, hein, même. On trouve la même féerie, même si elle s'exprime différemment, je trouve qu'on y déniche la même féerie, la même poésie, le voyage est vraiment magnifique, sachant qu'on peut jouer en solo ou à deux. Voilà, il y a oh, les décors, non mais Clashny au premier plan, voilà. C'est avec Mickey et Donald. Donc en solo, vous pouvez jouer soit Mickey, soit Donald, sachant que les parcours sont différents. Il y a des stages, au niveau des embranchements, il y a des stages qui changent. Et quand vous jouez à deux, il y a des stages aussi qui sont différents. Et à deux, il faut s'entraider pour se hisser, pour passer des passages étroits, etc. Bon, que dire si ce n'est que c'est tout aussi féerique pour moi que Castle of Illusion, comme je le disais. Castle of Illusion a une part un peu plus forte dans mon cœur, mais World of Illusion est vraiment pas loin derrière. Et c'était vraiment, je vous dis, trouver ces deux-là sur la Mega Drive Mini, ça a beaucoup compté, moi, dans le fait que je voulais la Mega Drive Mini avant que voilà, mes adorables tipeurs me fassent voilà ce cadeau hallucinant. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas Castle of Illusion ou World of Illusion, j'adore. Et alors c'est un truc qu'il a un rythme un peu lent, mais moi j'aime beaucoup ce rythme lent de World of Illusion, pardon. Ça fait partie du voyage en fait, et vraiment c'est un voyage qui va vous amener loin, vraiment, même si le jeu est pas très long, hein, mais il y a quand même trois parcours différents, et c'est bon, voilà, je vais essayer de comme d'habitude de pas en faire des tonnes, mais je n'en pense pas moins. Voilà, c'est un jeu qui a beaucoup compté pour moi également, et j'ai une anecdote à propos de ce jeu. Alors j'essaye de jouer en même temps. On a combien au niveau du son? J'espère que c'est audible pour vous. Moi, je pense que ça l'est. Quand World of Illusion est sorti, la Super Famicom, et donc la Super Nintendo, était déjà bien installée depuis un certain temps. Et à ce moment-là, il était de coutume, même si on avait une Mega Drive, bon, la Mega Drive était sur la fin, grosso merdo, et il fallait s'acheter des jeux Super Famicom, quoi. Et à ce moment-là, moi j'avais la Super Nintendo, alors peut-être qu'un jour, je ne sais pas, je ferai la même émission pour la Super Nintendo Mini, ça pourrait être intéressant si ça vous plaît, un jour je ne sais pas. Mais bref, et du coup, à ce moment-là, World of Illusion sort, et je le veux absolument. À ce moment-là, la Mega Drive, y compris chez nous en Europe, hein, est vraiment plus dans le coup. En tout cas, c'est les souvenirs que j'ai de l'époque. Vous allez peut-être me dire que c'est totalement différent, mais moi, c'est les souvenirs que j'ai. Et avec mon pote Mickaël, d'ailleurs, je me souviens très bien, je l'avais appelé, je dis, putain, j'ai demandé à mon père de... Parce qu'à ce moment-là, j'étais... Oui, j'étais pas encore majeur, hein, de toute façon. Bref, je ne sais plus, je m'en mêle au niveau des dates. Mais... Donc, on commande World of Illusion. Et j'appelle Mickaël et tout pour lui dire, et il me fait, mais... Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les portables, hein, donc j'appelle avec le vieux téléphone et tout, à touche, à cadran à touche, quoi, et circulaire, j'en avais un vieux comme ça à la maison, et je lui dis, Mickaël et tout, je me suis commandé World of Illusion. Il fait, comment ça? Il fait, tu t'es pas pris? Alors, je sais plus ce qui était sorti sur Super Nintendo à l'époque. Ah, je fais, non, je veux World of Illusion, je veux ce jeu, voilà. Et je n'ai pas regretté. Ça a été mon père encore qui nous avait amené, moi et mon frère, le récupérer. Je crois que ça devait être un truc comme la Redoute en plus, où les trois Suisses fallait aller à un point dépôt de colis Redoute ou trois Suisses, je sais plus. Et voilà, et sur le chemin du retour dans la voiture, j'admirais la boîte, j'étais comme un fou. Et j'avais peur d'être déçu en fait. Et ça a été une nouvelle claque, voilà, donc World of Illusion. Hop, alors j'arrive au boss, on va retourner au menu. Et donc il n'y a pas Quackshot. Alors Quackshot, j'aime énormément Quackshot, alors peut-être un petit chouille moins que les deux Illusions, mais c'est un jeu vraiment énorme, et bon, peut-être que pour les droits, ça a été un petit peu compliqué. Donc Quackshot, qui était vraiment le jeu centré sur Donald, et qui était un jeu vraiment aussi fantastique. Alors on va retourner au menu principal. Alors je crois que j'ai dû zapper Sonic 2, comme à Saint-Gouin. Oui, j'ai zappé Sonic 2. Alors, Sonic 2, c'est... j'ai rebaissé un peu le son, j'ai l'impression que c'est un peu fort, non? Je sais plus. Sonic 2, c'est un petit peu particulier. Voilà, j'ai un souvenir qui est très lié à ma mère. Alors, je vais pas faire du Zola, hein, voilà, mais j'ai perdu ma mère quand j'avais 18 ans. Une maladie l'a emporté. Et en termes de jeux vidéo, c'est vrai que ma mère était très cool. Voilà, très cool aussi, comme mon père. Hein. Ils étaient vraiment super cool. Voilà. On a eu vraiment cette chance-là avec mon frangin. Et Sonic 2, vous vous souvenez, pour ceux qui l'ont vécu à l'époque, c'était une sortie mondiale. Ce qui n'était pas si courant hein, à l'époque. Hein. Vraiment, on attendait les jeux et tout. Sonic 2 sort en sortie mondiale et après la claque du 1. Bah, Sonic 2, on voulait jouer à Sonic 2. Quoi. Et Sonic 2 commence à apparaître dans les magasins. Donc je me rappelle Aubervilliers, même dans les magasins de jouets. On trouvait beaucoup de jeux vidéo dans les magasins de jouets à l'époque. Donc Sonic 2 est là et tout. Avec sa jaquette très rouge, très agressive, vraiment qui donne envie de l'avoir tout de suite. Et ben donc le jeu était sorti, on n'a pas pu se l'acheter tout de suite, voilà. Et on avait vraiment envie d'y jouer. Et un soir, ma mère est rentrée du boulot, je sais plus, c'était quelques jours après, ou peut-être quelques semaines après, je ne sais plus en fait. Là vraiment, je vous dis, c'est les souvenirs voilà, qui font un peu défaut. Et ma mère sort, ma mère rentre du boulot, donc vers 19h30, j'imagine, dans ces eaux-là. Et je sais plus ce qu'elle nous dit, tout ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire ce soir, machin? Bah, on sait pas. Et puis elle sort la cartouche, la boîte Sonic 2 de son sac. Et elle sort quelque chose comme, alors j'ai plus trop les mots en tête, mais quelque chose comme, est-ce que ce serait pas la soirée pour jouer à Sonic 2 avec mon frère. Je sais pas si Julien avait écouté ce podcast, mais on a fait des bons, on a crié, on était comme des malades. Et voilà, Sonic 2 qui, même si je préfère vraiment largement le 1, Sonic 2 c'est Sonic 2 quoi, voilà, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Donc c'était vraiment un grand moment, un très très grand moment. Qu'est-ce qu'on a dans les autres jeux? Donc Street 2, il y a Gunstar Heroes, et ça c'est génial, même si, très dur, hein, même si pour moi, le contrat, donc Art Corps, qui est là sous le nom de Probotector, l'éclate complètement. Vraiment à tous les niveaux, voilà, j'ai toujours crié haut et fort, ça aussi, alors qu'on retrouve des mêmes devs, si je dis pas de bêtises, dans les deux, puisque Treasure s'est formé avec des anciens de Konami, donc voilà. Il y a le Shinobi 3 qui est très très bien, alors Shadow Dancer reste mon préféré, Shinobi tout court d'ailleurs, mais Shinobi 3 c'est... Pff, il y a une action de taré, c'est magnifiquement beau. Il y a une scénographie même, le moment à cheval et tout, enfin bref, c'est génial. Castlevania, The New Generation, donc qu'on connaît aussi sous le nom de Bloodlines, qui est un de mes Castlevania. Vous voyez, je reprends l'éthique de langage de l'époque, hein, Castlevania. Voilà, qu'est-ce qu'on a aussi? On a Probotector, la compile Megaman, ça c'est énorme, mais ça j'avais pas découvert à l'époque. Et on a aussi, avec des textes officiels pour le Monster World 4, et ça c'est quand même assez excellent. Il y a aussi Darius hein, et Tetris qui sont des jeux inédits, ça vous avez sûrement dû suivre l'histoire. Je vais baisser un petit peu le son, hop, hein, comme ça, voilà, tout doucement, tac tac tac. Voilà, c'était, je vais peut-être pas faire plus longtemps, je sais pas combien de temps je suis, puisque là je vais monter ce podcast et je vais continuer à jouer. Je vais essayer de vous mettre ce podcast, oui, je suis ému. Je vais remettre un petit fond de musique quand même, ouais, voilà. J'aimerais vraiment vous remercier. Mopral, Noka, Lina Nounette, Machin Truc 76, Yvan le Pierrot, Garan, Siwidiju, Pipo, HXC et Natacha qui étaient dans le coup. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. J'ai pas voulu faire trop dans le pathos et tout ça. Là, c'est quelques souvenirs que je vous ai livrés. C'était vraiment pour vous dire à quel point la Mega Drive avait compté pour moi et qu'elle m'avait accompagné vraiment dans des moments forts, que ce soit de vie familiale, de vie perso ou dans ma passion du jeu vidéo. Elle a vraiment cette console a eu un rôle pour moi énormissime et je m'en suis vraiment rendu compte au fil des années qu'elle a compté autant que la Super Nintendo pour moi, vraiment au niveau des chocs ludiques et de ce qui a façonné ma culture JV quoi, tout simplement. Là, au moment où je vous parle, j'ai pas trop eu le temps vraiment de m'adonner à la Mega Drive Mini, donc là je vais vraiment plonger plus profondément dedans. Je le répète, si le filtre CRT vous paraît un petit peu violent, et c'est vrai qu'il l'est, surtout sur un grand écran HD, Full HD, si vous avez l'option netteté pour l'image, vous la baissez complètement, ça ajoute une sorte de petit flou, mais qui n'en est pas un, quoi. Vraiment, ça adoucit tous les contours, et ça vous fait un filtre, vraiment, ça me fait un rendu, je vous l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, qui est waouh, qui me bluffe personnellement, je suis très content d'avoir trouvé cette astuce. Donc j'ai une image là qui est grandiose quoi. J'ai pas parlé aussi de, parce que pour moi c'est évident, tout le monde en a parlé ces derniers jours, mais la version, donc la console, la Mega Drive Mini, la réplique vraiment avec tous les boutons, l'emplacement pour mettre les cartouches, etc. Enfin c'est magnifique quoi. Sega a fait un boulot d'orfèvre. Et Les manettes, j'en discutais d'ailleurs, Vanifraise, si tu écoutes, je te salue, un des tipeurs de l'émission, qui lui regrettait, comme certains, hein, de ne pas avoir la manette 6 boutons. Moi, je suis vraiment hyper heureux d'avoir la manette 3 boutons, puisque, clairement, moi, la Mega Drive Mini, j'y joue pas pour Street. Et surtout, c'est la manette que j'ai connue à l'époque, et j'en ai eu qui avaient supporté les affres du temps, d'autres qui s'étaient un petit peu... déglinguer, les années passant, c'est pas évident. Le matériel, supporte plus ou moins ça. Et là, la réplique exacte, le feeling d'époque, quoi. Comme quand mes parents m'avaient acheté la Mega Drive, c'est des choses qui sont voilà, c'est des choses qui n'ont pas de prix, j'allais dire, mais si, ça a eu un prix pour vous. Je veux vraiment vous remercier encore, vous le savez, je le répète tout le temps, c'est beaucoup trop, vous êtes vraiment des amours et j'ai de la chance de vous avoir. Et donc là, je vais essayer de monter ce podcast pour ce soir et puis m'atteler donc à la revue de lundi. Il y a encore un programme absolument fantastique. Et voilà, je vous remercie encore. Donc je vous retrouve très vite pour ceux qui ne connaissent pas la revue de presse JV, dans la revue de presse JV, tous les lundis, hein, partout sur l'internet et même ailleurs. Et là, voilà, je vais couper et je vais jouer à cette Mega Drive Mini de l'amour. Encore merci à vous tous et je vous embrasse.